La première, il est 8h. Et la une ce matin, la fin du mois qui préoccupe davantage les Belges que la fin du monde.
Oui, notre enquête nationale révèle que pour une majorité de Belges, l'argent est plus précieux que jamais.
La vie devient très chère, on achète moins.
À ce moment-ci, je dois beaucoup aller chercher sur mon compte épargne, si je veux dire de pouvoir manger, de payer mes factures.
Le CHU de Lille a conçu un stérilet pour hommes. Il pourrait être commercialisé en 2033 avec un énorme avantage. Le processus serait réversible. Elle sera la princesse héritière la plus diplômée d'Europe. Elisabeth, future reine des Belges, termine aujourd'hui à Harvard un cursus universitaire approfondi. Raphaël Collignon se fait les dents à Roland-Garros et il aura un sacré os à ronger aujourd'hui au deuxième tour. Le cinquième meilleur joueur au monde.
La météo de ce jeudi avec Mélanie Pousseur.
Un beau et grand soleil tout au long de la journée avec quand même un risque orageux pour Courtrai, Tournai en fin d'après-midi, début de soirée. Les maxima du jour entre 24 et 30 degrés.
Et c'est François Kirsch qui vous présente votre journal de 8h. Bonjour François.
Bonjour.
La situation économique et le pouvoir d'achat sont au premier rang des inquiétudes des Belges.
Oui, selon les résultats de l'enquête nationale réalisée par l'ULB et l'Université d'Anvers pour la RTBF, la VRT et le Standard. Les fins de mois peuvent être difficiles pour de nombreuses personnes.
Dans cette boutique de Soigny, Iris, 21 ans, a constaté plus de prudence dans les achats de ses clients ces derniers mois.
On sent en tout cas qu'il y a une petite réticence au moment de passer à la caisse ou de choisir un sac. On va plutôt choisir celui qui a le plus petit budget. Je le remarque.
Un peu plus loin aussi sur le marché, ces acheteurs de retraités font plus attention.
Je pense que comme beaucoup, tout le monde doit faire attention à tout, à l'électricité, à l'eau, etc.
La vie devient très chère. Bon, ben voilà, on achète moins.
Leur inquiétude semble partagée. Selon l'enquête nationale, la situation économique et le pouvoir d'achat sont considérés comme le principal problème en 2026.
J'ai pas un salaire mirobolant, on va dire. Donc, à ce moment-ci, je dois beaucoup aller chercher sur mon compte épargne, parce que je n'ai pas le choix, si je veux dire, de pouvoir manger, de payer mes factures.
Les fins de mois difficiles, c'est la réalité de 30% des Wallons et des Bruxellois qui déclarent que leurs revenus ne suffisent pas à couvrir leurs besoins. Beaucoup disent qu'ils ne peuvent pas se permettre certaines dépenses. Environ un tiers des francophones interrogés déclarent par exemple ne pas pouvoir se payer une voiture.
J'ai acheté une voiture maintenant, elle est au garage. J'ai mis 8 ans d'économie pour pouvoir l'acheter, quoi.
Une grande majorité des sondés estiment que la situation économique s'est dégradée au cours de l'année écoulée. C'est le cas de 75% des Wallons et 69% des Bruxellois.
Illustration de notre enquête avec Didier Mkouach, Didier Hilderive et Baptiste Huppin. Une question encore, Baptiste. Est-ce que la politique du gouvernement de Wever répond aux inquiétudes des Belges? Pas tout à fait, selon l'enquête.
Oui, les mesures qui affectent le pouvoir d'achat de manière globale ne reçoivent que très peu de soutien des sondés. Le malus pension, par exemple, n'est soutenu que par une courte majorité des Flamands et est rejeté par une majorité de Wallons et de Bruxellois. Le plafonnement de l'indexation est largement rejeté dans les trois régions, tout comme une éventuelle hausse de la TVA. En revanche, les mesures d'économie qui ne touchent qu'une catégorie de la population, comme la limitation des allocations de chômage dans le temps ou le contrôle accru des malades de longue durée, ces mesures sont soutenues par une majorité des sondés, avec un soutien plus marqué en Flandre.
Et plus de détails sur l'enquête nationale à retrouver sur RTBF Actu, une enquête nationale réalisée entre le 9 mars et le 5 avril. La RTBF vous révélait il y a peu qu'en seulement 40 minutes sur TikTok, un ado qui s'intéresse à la musculation finit par tomber sur des contenus masculinistes. Le Forum des jeunes a voulu approfondir et a consulté 2000 francophones âgés de 16 à 30 ans. Les conclusions de cette consultations doivent être débattues au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais elles ont déjà été présentées aux élèves de Réto du Sacré-Cœur de Nivelles. Marie-Laure Matteau y était pour nous.
Qui a déjà entendu parler de masculinisme? C'est une des premières questions posées par le Forum des jeunes dans sa consultation. Aujourd'hui, c'est aux élèves de Réto du Sacré-Cœur de Nivelles de répondre, Martin et Gabriel.
J'ai déjà eu pas mal de vidéos qui sont tombées dessus sur mes feeds Instagram ou quoi que ce soit. Simplement, on ne s'en rend pas spécialement compte.
C'est quelque chose qui est d'abord, je ne vais pas dire innocent, mais quelque chose qui n'est pas direct. Et au fur et à mesure que les vidéos passent, c'est des discours de plus en plus directs.
Le masculinisme.
Tu veux vraiment que ta femme se laisse aller dans sa féminité totale?
dans sa soumission.
Ce courant viriliste, souvent sexiste, à portée de scroll sur les réseaux sociaux. Trois quarts des 2000 filles et garçons consultés ont déjà entendu parler de ces contenus. Louise Le Bichot, secrétaire générale du Forum des Jeunes.
Quand on leur demande en fait qu'est-ce qu'ils comprennent concrètement par ce terme, là on a vraiment un arc-en-ciel de définition.
Deux jeunes sur trois n'adhèrent pas à ces valeurs. Quant aux tiers restants,
on a une petite minorité de jeunes qui nous disent vraiment adhérer à ces contenus-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a plutôt des jeunes qui se situent dans une zone de flou.
L'animation du jour a en tout cas permis aux jeunes nivellois de se positionner. Nathan.
C'est de la discrimination pure.
Les résultats de cette grande consultation doivent à présent être débattus par les députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
C'est quoi être un homme? Vous êtes de plus en plus nombreux à considérer que cela n'implique pas forcément d'être fécond. Il y a une demande pour la contraception masculine et un nouveau dispositif pourrait bientôt faciliter les choses. Le stéom, un stérilet pour homme. Comment ça marche? Dominique Prasivoravang nous explique. Il fait partie de l'équipe du CHU de Lille qui développe ce produit.
C'est un dispositif qui est entièrement mécanique. En l'occurrence, qu'il n'y a vraiment aucune hormone, il n'y a pas de médicaments. Le but, c'est vraiment d'interférer au minimum sur la physiologie des porteurs de stéom. Et l'idée, simplement, c'est que c'est ce dispositif qui fait environ 1 cm maximum, se pose sur ce qu'on appelle les canaux déférents. Donc les canaux déférents, leur fonction est de transporter les spermatozoïdes. Et le but, c'est venir justement se poser sur ces canaux et agir de façon à ce qu'il n'y ait plus de fertilité. En fait, que ces spermatozoïdes ne viennent plus dans le sperme. Et donc, à l'instar de la vasectomie, finalement, on vient couper les canaux déférents. Nous, on vient poser notre dispositif pour avoir le même effet, en fait. Et le gros avantage, c'est que le but, c'est d'être réversible, puisque en enlevant ce dispositif, on récupère finalement la fertilité.
Une interview de Pierre Lambert avant sa commercialisation. Il reste encore pas mal d'étapes à franchir, notamment des essais précliniques qui seront menés en partenariat avec l'Université de Liège. Si tout va bien, la commercialisation de ce stérilet pour hommes sera pour 2033 ou plutôt. Plus d'infos sur RTBF Actu.
C'est la journée de remise des diplômes à l'université d'Harvard aux États-Unis.
La future reine des Belges fait partie de la promotion. La princesse Elisabeth qui rajoute un diplôme à son CV déjà bien étoffé, Daniel Welter.
Oui, par le passé, la formation des futurs souverains était avant tout militaire en Belgique. Seul le roi Philippe a suivi des cours en sciences politiques à l'université de Stanford en Californie. Ici, on est dans un tout autre univers. Elisabeth enchaîne les cursus les plus prestigieux, surtout à l'étranger. Il y a d'abord eu ce baccalauréat international au Pays de Galles, puis ce bachelier en histoire et politique à Oxford et enfin ce master en politique publique à Harvard. Voilà qui lui donne une solide formation, un statut, une stature, un réseau à l'international. Et en même temps, c'est la princesse la plus diplômée de sa génération en Europe. La princesse Léonore d'Espagne et Amalia des Pays-Bas, toutes deux nées pour régner, ont privilégié des études moins poussées et au pays.
Le roi et la reine assisteront aujourd'hui à la remise de diplôme à l'université d'Harvard. On vous emmène à présent dans un endroit méconnu situé à Namur. Il n'est pas accessible au public. Ce lieu renferme la collection d'œuvres d'art appartenant à la Wallonie. Visite avec Rudy Herman, c'est François Merci.
L'endroit est sécurisé et sans charme. La beauté de ce coffre-fort est intérieure. Philippe Gémis, directeur des archives régionales.
Je vous présente une des œuvres emblématiques de la collection, de par son format déjà, elle est très très grande, et par son auteur aussi, c'est Pierre Paulus, le peintre des paysages de la Sambre.
Paulus, mais aussi Magritte, Folon, Ratti, Roulin, et également des artistes moins connus ou émergents.
Il y a vraiment une volonté des gouvernements successifs de mettre en évidence le patrimoine artistique wallon, et surtout mettre en évidence ces artistes.
Les gouvernements régionaux ont commencé les acquisitions dans les années 80, et certaines œuvres ornent les murs des cabinets ministériels. Adrien Dolimont, le ministre président wallon.
Ici, juste derrière moi, il y a justement un Félicien Rops, artiste namurois, et lors de visites, souvent on me pose des questions sur les œuvres, et c'est l'occasion de faire le lien avec le musée qui existe en centre-ville.
Tableaux, sculptures, gravures, dessins, photographies. Au fil des ans, la Wallonie a constitué une collection de plus de 900 œuvres. Aujourd'hui, vu le contexte budgétaire, les achats sont suspendus.
C'est clair que ce n'est évidemment pas forcément une priorité, mais la porte n'est évidemment jamais fermée.
La valeur de ce patrimoine patrimoine culturel wallon est estimé à près de 4 300 000 euros.
C'était il y a exactement un an, le 28 mai 2025, des millions de tonnes de roches, de glace et de boue s'effondraient sur le paisible village de Blatten dans les Alpes suisses.
Oui, le village était enseveli, rayé de la carte à la suite de la rupture d'un glacier. Les 300 habitants de Blatten avaient pu tous être évacués à temps et ils espèrent pouvoir reconstruire leur village. Reportage de Jérémy Lanche.
Pour trouver la mairie de Blatten, il faut aujourd'hui se rendre dans celle du village voisin de Villers. Des bureaux ont été aménagés pour Mathias Belwald, le président de Blatten, forcément ému à l'idée de commémorer la catastrophe.
Je pense que pour la plupart des gens, des images et des souvenirs vont ressurgir. Ils ont déjà tant enduré. L'anniversaire ravive le souvenir de cette catastrophe, mais c'est aussi une étape du processus de deuil.
Un processus qui passe aussi par la reconstruction.
Là, il y a la barrière. Maintenant, c'est la première machine, sont là.
Plusieurs chantiers ont déjà été lancés, explique Lucas Kalbermatten de la commission de reconstruction. Mais le plus dur reste à faire.
C'est de détruire ces 28 maisons, comme la mienne, à côté de d'Avalanche. Comme ça, on peut, dans 2 ans ou 3 ans, on peut reconstruire la maison.
Pour celle de Lucas, ce ne sera pas possible. Elle est située dans la nouvelle zone rouge inconstructible. Cet hôtelier compte pourtant bien rentrer un jour dans son village, certain que le pire est désormais passé.
Deux fois, je dis pourquoi les gens veulent vivre côté de la Etna, le volcan. Demain, dans 100 ans, dans 200 ans, il explose. Et c'est la même chose ici.
Et si tout se passe bien, les premiers retours d'habitants sont attendus dès cet été.
Quoi de beau, quoi de neuf à entendre hier pour la 3e soirée de finale du concours Reine-Elisabeth de violoncelle. Marie Miquel, c'était dans la salle Henri Leboeuf du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Et sur scène, une Française de 25 ans, Clara Dietlin, étudiante à la Chapelle Musicale à Waterloo. Et puis un candidat italien de 23 ans qui faisait partie des favoris cette année, Ettore Pagano.
Ettore Pagano fonctionne sur scène comme un aimant, impossible de ne pas l'écouter. Son violoncelle, il l'explore, l'exploite, des sons de toutes sortes. Son plus grand rêve est d'ailleurs de diriger un orchestre pour jouer avec tous les sons de l'orchestre. Pas très étonnant qu'il ait choisi la symphonie concertante de Prokofiev, dans laquelle les émotions changent au quart de tour. Ettore Pagano est dans sa bulle, pour lui c'est ça, être soliste, et le public ne le lâche plus. La performance est musclée, souvent, il y a très peu de relâchement, peut-être trop peu. Il donne tout, des concours, il en a fait des tonnes, raconte-t-il. Sa mère l'y inscrivait pour ne plus avoir peur de jouer en public. Et la finale du Reine Elisabeth, pour lui, c'est un peu comme décrocher une place au Wimbledon du violoncelle. C'est comme ça qu'il l'appelle. Après la pause, Clara Dietlin montre une toute autre approche de l'instrument. Moins dense et au son plus petit. Elle aussi choisit la symphonie concertante de Prokofiev, mais on la perd petit à petit. Elle fait de très jolies choses, mais dans certains passages, c'est comme si c'était l'énergie qui l'abandonnait.
Vous pouvez suivre le concours en direct sur les médias de la RTBF.
Et vous pouvez regarder également le tournoi de tennis de Roland-Garros sur ces mêmes médias de la RTBF.
Et les deux derniers Belges en simple qui disputent aujourd'hui leur deuxième tour à Roland-Garros. Elise Mertens sera opposée à la Polonaise Maja Jwalinska, 114e mondiale. Plus tard dans la journée, Raphaël Collignon défiera l'Américain Ben Shelton, 5e joueur du monde. Un bel adversaire pour le Liégeois.
C'est un super joueur, il a déjà gagné des Masters 1000, il a déjà été très très loin dans le Grand Chelem, donc c'est vraiment un gros client et je pense qu'il s'est aussi beaucoup amélioré sur terre battue ces dernières années, il a gagné un 500 je pense cette année à Munich, donc il progresse cette surface évidemment, c'est pas sa meilleure surface, le dur extérieur c'est vraiment là où il est le plus fort mais ça devient vraiment un client sérieux au fur et à mesure des années sur terre battue, je pense qu'il a perdu l'année dernière ici en 8e en 4-7 contre Carlos, donc il a vraiment l'habitude de jouer ici, il joue vraiment très très bien, donc il va falloir que je joue mon meilleur tennis si je veux avoir une chance de l'accrocher et de gagner. Donc ça va être vraiment intéressant de voir un petit peu où je me situe puisque j'ai déjà joué des top 10. Cette année j'ai joué aussi Musetti top 10. J'ai un petit peu d'expérience à ce niveau-là mais ça va être un bon test pour moi de savoir un peu où je me situe à l'heure actuelle.
Raphaël Collignon interrogé par notre envoyé spécial à Roland-Garros, Christine Anquet. Crystal Palace a remporté la finale de la Conference League de football, victoire 1-0 face aux Espagnols de Rayo Vallecano. C'est le premier titre européen de l'histoire du club londonien. Et cette année, les clubs anglais pourraient rafler tous les trophées européens. Crystal Palace sacré en Conference League, Aston Villa en Europa League, c'est fait. Reste Arsenal qui affrontera le PSG samedi en finale de la Ligue des Champions.